franceinter.fr.
Bonjour. On les appelle les TAF pour Terres australes et antarctiques françaises. Cet acronyme un peu barbare désigne un ensemble d'îles et d'archipels perdus au beau milieu de l'océan Indien, dont les noms sont beaucoup plus évocateurs. Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, ainsi que les îles éparses au large de Madagascar, auxquelles il faut ajouter la Terre Adélie sur le continent antarctique. Regroupées du point de vue administratif en un territoire d'outre-mer depuis tout juste 60 ans, ces îles n'ont pas de population permanente mais abritent des bases qui accueillent des scientifiques et des personnels techniques pour des périodes de 6 mois à 1 an. Les seuls habitants permanents sont les oiseaux et les mammifères marins. Une faune exceptionnelle, unique au monde. Depuis 2006, une réserve naturelle la plus vaste de France a été créée dans les îles australes. Les chercheurs y mènent des travaux importants pour la connaissance de la biodiversité. Ils constatent aussi, comme vous allez l'entendre, les effets sur ces milieux du réchauffement climatique, dont il a beaucoup été question lors de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP21, qui vient de s'achever à Paris. Nathalie Grinspan a eu la chance de pouvoir embarquer sur le Marion Dufresne 2, le navire qui dessert et ravitaille les îles australes et qui l'a mené de Crozet à Saint-Paul et Amsterdam en passant par les îles Kerguelen. Voici son reportage, Terres australes, des sanctuaires à protéger.
Interception, le magazine de la rédaction.
Là, je suis devant le Marion Dufresne, qui est à quai. Et ce sont les opérations à la fois d'embarquement des personnels. Là, sur cette rotation, ce sont d'abord des militaires qui vont relever les personnels sur les bases. Et puis, comme vous l'entendez, il y a les crues qui chargent des conteneurs, des palettes. Donc c'est vraiment une perruche, là, en ce moment, autour du Marion Dufresne. Vous pouvez monter, là ?
Oui.
D'accord. Donc, nous sommes jeudi 3 septembre. Il est 8h30. On embarque ce soir. Je suis sur le pont tribord.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour. Il est interdit de circuler sur le pont pendant les opérations parce qu'on fait de la manutention et tout.
Dites-lui que le commandant la voit.
Voilà. Le commandant la voit. Et du coup, voilà. Il y a l'accès juste au pont. Ça marche ?
Ça marche. Bonjour. Crozet, première des îles subantarctiques que nous allons ravitailler, est à 3000 km au sud de La Réunion. 5 jours de mer, le passage des mythiques 40e rugissants et de la zone de convergence entre l'océan Indien et l'océan Antarctique. Une bande mouvante de plusieurs dizaines de kilomètres que Fanny Chastel, officier de quart, connaît bien. On va voir les lièvres. Alors, ici maintenant, c'est la limite des icebergs.
Donc c'est en dessous des 40e.
Ça passe au-dessus, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, comme ça là. Ce qu'on voit après, mais ça dépend. Moi je l'ai vu l'année dernière, il y avait un changement de météo un peu impressionnant en fait. Parce que je suis arrivée au quart à 20h, l'eau de mer était à 16, à minuit elle était à 6 degrés. Et le vent était passé de 15 nœuds de face à 60 nœuds de face. Voilà. Donc le 9 à 18h, on a 30-25 nœuds de vent de l'arrière. C'est ce qu'on a en vrai maintenant. Et après, il prévoit 30 nœuds de vent de l'arrière. Donc du vent de nord-ouest. Demain, le vent il tourne plus sud et il diminue. Donc on n'aura pas une météo plus mauvaise en passant les 40e. A priori. Oui.
Bah c'est tant mieux. Enfin,
Moi je suis contente. Ouais.
Ouais, ça veut dire qu'on va arriver tranquillement à Crozet.
A priori, ouais. Après, pas mal de milles par jour. Hein.
On va arriver plus tôt que prévu.
On arrive vendredi matin.
6h. Hein.
Ouais, 6h.
À la passerelle aussi, ce soir-là, très attentif, Raphaël Sheffield, qui fait le grand saut. À 32 ans, il part un an à Crozet pour assurer la fonction de chef de district. Représentant de l'autorité préfectorale sur place, il dirigera la base. Les chefs de district viennent de tous les horizons, fonctionnaires, militaires ou contractuels. Ce qui compte, c'est la capacité à encadrer un groupe d'hommes et de femmes, une cinquantaine pour Crozet durant l'été austral, et veiller à la sécurité de tous en ces lieux isolés, en totale autonomie, sans possibilité de secours autre que par la mer. Une véritable aventure.
Vous avez des liaisons avec Crozet, là, déjà ?
Oui, tout à fait. Donc, pour les passations, ça fait à peu près un mois et demi que je parle à mon prédécesseur et qui m'envoie des informations, qui me met en copie de ses comptes rendus mensuels. Donc, je commence déjà à me faire une idée et à visualiser les activités de la base.
Vous venez d'où dans votre parcours professionnel ?
Alors, moi, je suis grenoblois à l'origine. Hein. Et puis là, je travaille chez Airbus à Toulouse, dans l'aéronautique.
Vous avez hâte de mettre le pied ?
Oui, bien sûr, j'ai jamais été aussi prêt. Donc oui, forcément hâte. Un peu d'anxiété aussi, forcément. Le moment le plus exaltant et le plus terrifiant, c'est lorsqu'on voit le Marion Dufresne passer sous l'horizon. Et quand on a la dernière vacation radio avec le commandant qui nous souhaite un bon hivernage, c'est vrai que voilà, après on est seul maître à bord. Travailler avec les autres de cette façon-là, c'est ce qui nous attire d'un point de vue professionnel. Après, d'un point de vue personnel, on est aussi, et je dirais à part égale, sinon supérieure, attiré par ce décor incroyable qui nous est offert, par une faune qui n'a pas peur de l'homme. On est privilégié.
Vraiment maintenant dans les eaux subantarctiques, il fait 6-7 degrés, il y a un vent bien présent. Tout le monde a sorti les bonnets, les anoraks. Voilà, on a quitté les tropiques. Allez, bienvenue dans les terres australes, hein. Le vent cingle. Et c'est très très bon.
Les impressions sur Crozet.
Ah, c'est
particulier, hein?
Ouais, c'est pas.
prochaine.
Je trouve que l'air a un goût particulier. Non ? Espèce de truc un peu... Espèce de froid qu'on trouve bien en montagne. Espèce d'air sec, un peu cinglant, mais très froid.
C'est vrai que c'est rare de voir l'île de l'Est comme ça.
Ouais, bah tout dégagé, ouais. Souvent les sommets sont pris.
C'est grand beau.
C'est pas toujours ces conditions-là. Non, c'est l'hiver, hein, l'hiver est comme ça. C'est bien parce que ça permet de, vous voyez, de comprendre assez vite. Si on met un groupe humain pendant un an dans cette ambiance-là, on peut concevoir que les individus se calment en fait. On va dire les tensions intérieures s'apaisent, quoi.
Les endroits d'aller se promener, là on voit toutes ces crêtes, ces vallons.
Alors il y a des chemins. Comme la végétation est vraiment fragile et que c'est très humide de partout, il y a des sentiers qui sont repérés. Donc des traces qui sont faites, et sur les zones vraiment très très humides, il y a des aménagements qui ont été mis en place par la réserve, notamment des caillebotis qui permettent aux gens de passer. Après, il y a des endroits où ça n'a pas été possible de le faire, donc les gens utilisent des raquettes à neige, parce que pour marcher sur les milieux humides, ça évite de tasser en fait, ils peuvent passer sans tasser.
Là, on a beaucoup de lichens, hein. Des mousses.
Beaucoup de mousse, beaucoup de mousse, ouais. Ouais. Ça, on voit bien, enfin, on devine un petit peu finalement le type de végétation, hein. Quand on est sur les pentes, l'eau s'écoule, donc ça va être très humide, du coup on a un peu plus de mousse, et puis on devine que quand on est un petit peu au-dessus de la pente avec les effets de vent, le sol est beaucoup moins présent, donc on arrive dans ces zones de cailloux et le type de végétation change. Et après, ce qui est vraiment typique ici, c'est cet imbroglio de végétation, de patchs qui s'enquillent les uns dans les autres, et on le voit bien, hein, il y a de la sena avec des graminées qui sont au milieu, on trouve aussi de la mousse, tout est vraiment imbriqué les uns dans les autres.
Il a neigé il n'y a pas longtemps.
Ouais. Oui, c'est du neige cette nuit ou hier. Alors actuellement, les manchots, alors on est l'hiver, donc la plupart des adultes sont en mer, et ce qui reste à terre, c'est les poussins qui ont réussi à passer l'hiver. Donc c'est pour ça que tout dessus, là, ce qu'on voit, c'est les crèches de poussins, donc toutes ces taches marron qui sont très serrées. Ça, c'est les poussins qui sont en crèche. Et autour, les taches blanches, ça, c'est les adultes. Alors, soit ça peut être des adultes qui sont venus pour nourrir le poussin et puis qui sont en attente avant de repartir, ou soit éventuellement des adultes où la reproduction a échoué. Et du coup, ils sont, pareil, un petit peu en attente. Et puis, ils vont repartir en mer. Donc, je m'appelle Luc Baudot. Je m'occupe de la coordination des agents de la réserve naturelle sur place, principalement à Kerguelen.
Ça fait 10 ans qu'elle existe.
La réserve, ça fait 10 ans, oui. Alors au début, il n'y avait rien. Alors qu'est-ce qu'on a fait au début ? Eh bien, une réserve naturelle, on a besoin d'avoir des connaissances, et notamment, on a besoin d'avoir des inventaires. Et chose peut-être surprenante, mais en 2010, et on ne connaissait pas tout des îles subantarctiques, et notamment où étaient les colonies d'animaux, quelles étaient les populations des oiseaux présentes. On n'avait pas non plus de carte complète des habitats, pas de carte non plus... la présence des espèces introduites sur les îles. Donc on a fait tout ça, on a mis en place des outils de suivi, on a mis en place la biosécurité, c'est-à-dire que tout ce qui est amené sur les îles est contrôlé avant le départ. Tous les conteneurs sont nettoyés et tout ce qui est mis dans les conteneurs est surveillé et nettoyé pour être sûr de ne pas introduire sur les îles des espèces exotiques à travers la logistique. Voilà, il y a une réserve naturelle, on est là pour gérer des espaces dans le cadre de ces gestions, comment on fonctionne, soit au niveau terrain, au niveau scientifique, ou même sur les bases. Par exemple, ça va être le tri des déchets, ça va être des réflexions par rapport aux dépenses énergétiques, ça va être des réflexions par rapport à l'éclairement des bases, qui avait un impact sur les oiseaux. Alors oui, ça va être des réflexions par rapport aux scientifiques et aux déplacements, c'est sûr. Aujourd'hui, on a des zones qui sont en réserve intégrale, on a des accès réservés à la recherche. Les scientifiques sont obligés de faire des demandes pour accéder à ces endroits-là. Donc je fais des campagnes de 6 à 8 mois. J'arrive avec les nouvelles missions, donc avec les chefs de district et puis l'ensemble des chefs de service. Et donc ça permet de travailler en collaboration avec les équipes sur place et que le discours et ce que fait la réserve naturelle soit bien compris sur place par les personnes qui y sont. Ce qui me permet, moi, après 6-8 mois passés sur place, de repartir et de revenir l'année d'après avec la nouvelle mission.
C'est en décembre que les équipes scientifiques sont renouvelées sur chacune des îles subantarctiques. Au total, une vingtaine de postes de volontaires de service civique sont ouverts chaque année pour de jeunes gens spécialisés en écologie, biologie ou encore en informatique et qui vont assurer pendant 15 mois le suivi sur le terrain des programmes. L'organisation de leur travail, de leur recrutement, le choix des programmes scientifiques, c'est la mission de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, l'IPEV. Et parmi les programmes en sciences du vivant ou en sciences de la Terre et de l'univers, un des plus importants sur les îles subantarctiques est celui du laboratoire du Centre d'études biologiques de Chizé, dans les Deux-Sèvres, un laboratoire du CNRS que dirige Henri Weimerskirch.
On a en permanence des volontaires au service civil qui travaillent pour notre programme pour réaliser des suivis de population. Et donc on a, c'est une situation unique, le suivi de ces populations d'oiseaux et de mammifères marins depuis maintenant près de 60 ans. En fait, tous les ans, des gens se succèdent sur place pour aller suivre les populations. On suit 22 espèces d'oiseaux et de mammifères marins et on va marquer ces animaux, donc les oiseaux avec des bagues, les phoques avec des transpondeurs, les manchots avec des transpondeurs ou des marques externes. Et ensuite, on va passer dans ces colonies pour essayer de retrouver les animaux qui ont été marqués. Ça nous permet de faire des modèles, en fait, comme le font les climatologues, en fait, faire des prédictions sur le devenir des populations dans les 100 prochaines années. Alors, je reviens par exemple aux manchots royaux, donc une espèce qui va se nourrir au sud actuellement de crozets et de kerguelen dans une zone très particulière, la zone du front polaire. Donc, c'est une zone de rencontre de deux masses d'eau qui est à environ 300-400 km aujourd'hui au sud de Crozet. Donc ils mettent une dizaine de jours pour faire l'aller-retour, pour chercher la nourriture, pour approvisionner leurs poussins, pour incuber l'œuf. Et on sait que dans une cinquantaine d'années, en fait, ce front polaire sera environ à 600 km et dans une centaine d'années, il sera environ à 800 km au nord de Crozet. On peut prédire que dans une cinquantaine d'années, en fait, les manchots auront beaucoup de mal à approvisionner leurs poussins. Donc certainement, les taux de reproduction seront très faibles, donc le succès reproducteur très faible. La mortalité des adultes va augmenter parce qu'ils auront plus de mal à aller chercher la nourriture, donc un effort plus important, une dépense énergétique plus importante. Et dans une centaine d'années, globalement, la population de Crozet ne sera plus viable parce que le front polaire sera trop éloigné de Crozet. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le changement est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on connut au cours des dernières glaciations. C'était beaucoup plus lent, en fait, le réchauffement s'est fait de façon beaucoup plus progressive. Donc, en fait, les espèces ont pu s'adapter plus facilement qu'aujourd'hui, où là, vraiment, le changement est extrêmement rapide et risque de s'accélérer encore dans les 100 prochaines années. Les scientifiques montrent que, effectivement, l'homme peut intervenir en réduisant la production de dioxyde de carbone. Enfin, je veux dire, on sait ce qu'il faudrait faire pour ralentir. On sait de toute façon que globalement, on ne va pas l'arrêter. Ce qu'on cherche à faire, c'est à diminuer en fait l'augmentation. Si on arrive à le faire, de toute façon, on va arriver à une augmentation de 2 degrés, ce qui sera considérable avec des impacts énormes de toute façon. Mais on peut quand même réduire l'impact parce qu'effectivement, on peut arriver à une situation, à une augmentation à 4, 3 ou 4 degrés, où là, ça serait vraiment catastrophique.
Christophe Guiné, moi je suis chercheur au CNRS, je travaille au Centre d'études biologiques de Chizé. Je travaille au sein d'une équipe de 10 chercheurs dont le travail porte sur l'écologie de ce qu'on appelle les prédateurs marins supérieurs, c'est-à-dire les oiseaux marins et les mammifères marins.
Et vous travaillez aussi sur l'impact du changement climatique sur ces populations?
Alors, une partie essentielle de notre travail, c'est justement de déterminer les changements qui affectent ces populations. Des changements qui peuvent être liés au changement climatique, mais aussi au changement de pratiques par les hommes, notamment l'effet de pêcherie sur ces populations d'oiseaux et mammifères marins. L'intérêt de ces suivis à long terme, c'est que ça nous permet de comprendre leur démographie, leur comportement. Et puis, ça avait permis d'identifier qu'on avait un problème dans cette population, qu'en effet, on avait un problème de surmortalité des femelles. Donc après, l'objectif, ça a été d'identifier la cause de cette mortalité. Et les travaux qui ont été conduits ont permis de montrer que cette mortalité, elle était liée à une pêcherie qui se passait au nord de Crozet. C'était une pêcherie qui ciblait le thon, et le thon rouge en particulier. Et comme les femelles vont pêcher un peu plus au nord de Crozet que les mâles plutôt au sud, et bien elles étaient plus victimes que les mâles de cette pêcherie en se prenant dans les hameçons, en essayant d'attraper les appâts, et elles mouraient noyées. Et c'est pour ça qu'on avait un sexe ratio déséquilibré. Donc on a pu identifier la cause, et après on a pu agir sur cette cause. Et donc il y a eu des recommandations qui ont été suivies des faits, avec un déplacement de la pêcherie plus au nord, pour limiter les captures accidentelles de femelles grand albatros.
Donc on n'a plus de vieux célibataires malheureux ?
On en a moins. Il y a un adulte, probablement une femelle, avec ses ailes noires, qui se repose à côté de son poussin. Donc là, elle va rester quelques heures, le temps d'alimenter son poussin, puis elle va repartir en mer. Et des fois, les oiseaux ne reviennent que 5 à 10 minutes, juste le temps de donner la nourriture à leur poussin, et repartent tout de suite en mer. Combien de poussins actuellement, ici ?
Si je me rappelle bien, on va démarrer du tour 40, entre 40 et 50.
Entre 40 et 50.
Si. Et dans le nord, il doit y avoir aussi un peu moins, entre 30 et 40. Donc, je m'appelle Clara Morey. Je travaille pour le programme Ornitho et écologie aussi.
Une journée ordinaire, c'est quoi ?
Je pense qu'il n'y a pas de journée ordinaire. Chaque mois, il est très différent et on travaille sur plusieurs espèces d'oiseaux. Et des mammifères marins aussi.
Ce que je peux dire, c'est que leurs journées en été sont très remplies.
C'est des longues journées, on marche beaucoup et on dépense beaucoup, mais ça passe hyper vite, c'est incroyable. Quand tu es dedans, c'est juste ouf. On a la chance de travailler sur des espèces très différentes, sur des lieux très différents. On a la chance de nous promener sur toute l'île. Donc avec toutes les conditions possibles aussi, non ? Des belles journées comme aujourd'hui, mais des journées aussi beaucoup moins jolies. Et des fois, il faut y aller aussi, même si la journée n'est pas belle, parce qu'on suit un planning avec des dates assez précises. Il faut contrôler les oiseaux dans des moments précis, aussi faire les comptages dans des moments précis.
Et oui, il faut que la mission soit remplie à la fin des 15 mois. Hein? Oui.
Si. Ouais. Mais bon, en général, c'est vrai que je pense que c'est juste une expérience magnifique, non ? C'est vraiment unique.
Et ce qui est surprenant, c'est que il y a 20 ans, on nous disait, oui, mais Chizé, vous faites toujours la même chose, vous contrôlez, enfin, bon, ça serait bien de changer un peu, de passer à autre chose. Et puis après, il y a eu toute la problématique des changements climatiques et les gens se sont rendus compte qu'on avait besoin de séries à long terme pour comprendre un peu ce qui se passait. Et là, on est devenu super à la mode, c'était super génial ce qu'on faisait, alors que quelques années auparavant, on nous regardait un peu de haut en disant, vous êtes des naturalistes, vous ne faites pas vraiment de la science en écologie. Donc, comme quoi, voilà, les choses peuvent évoluer au cours du temps et ces séries à long terme, elles permettent aussi de répondre à des questions écologiques en démographie, maintenant en écologie en mer, vraiment de comprendre comment ces animaux vivent en mer, trouvent leur nourriture, même d'observer le milieu marin. Donc on apprend énormément de choses grâce à eux. D'accord. Tu vois la petite avancée. Ouais.
Est-ce que je peux me mettre là, exceptionnellement ?
Alors peut-être. Il ne reviendra pas, c'est promis.
Mais voilà, les petites fougères et voilà.
Ouais. Fougères,
ouais. Parce que là, tout ce qui est neuf, c'est vraiment
fragile. Comment on appelle ça ?
Sur les fougères, le bécom, en fait, c'est les milieux.
On arrive à l'archipel de Kerguelen ce matin.
avec déjà un contretemps puisque le manque de visibilité nous a empêché d'entrer dans la baie de la Table pour approvisionner une des cabanes de l'Institut Polaire, donc ces cabanes scientifiques qui sont éloignées de la base principale Port-au-Français et donc qui sont ravitaillées par hélicoptère. Donc là on est sur le quai de déchargement et le chaland, l'Aventure 2, donc petite embarcation à fond plat, fait des navettes entre le Marion Dufresne qui est à 500 mètres dans le golfe là, à 500 mètres de la base, et il amène les conteneurs. Donc il y en a 17 en tout à décharger, plus bien évidemment beaucoup de ballots, d'autres choses aussi, mais enfin principalement ce sont les conteneurs qui déchargent. Et l'hélicoptère qui continue lui ses rotations, qui emmène des colis, des caisses un peu plus petites. Alors nous on nous invite à monter sur le chaland. On va essayer de faire ça correctement. Dans la cabine du chaland. Comment va ?
Ça va. Ouais.
Je m'appelle Stéphane Madrigal, je suis Bosco à Kerguelen et j'ai 22 ans de service dans la Marine nationale. Et je pense que c'est mon dernier grand voyage. Car d'après, bien sûr, il va falloir penser un peu à sa petite famille. Donc j'aurais fait un an sur le site et je suis pilote du chaland et plongeur. Donc ça nous permet de rapprovisionner les cabanes, tous les moyens logistiques à l'heure actuelle. Plus bien sûr on a un rôle important, c'est aussi la rescue en cas de souci en fait, soit pendant la campagne d'été, soit même pendant l'hiver. On est tenu d'être là soit 24 heures sur 24. Et en cas d'accident, donc on a envoyé le médecin ou récupéré si ce n'est juste qu'une entorse pour que tout se passe bien. Parce qu'on est un peu isolé après au bout d'un moment.
Tous les jours, vous tournez
en campagne d'été, je tourne pratiquement tous les jours, entre 7 et 10 heures par jour. En hiver, ça représente entre 2 et 3 sorties par semaine.
Avec une mer qui est difficile.
Mer qui peut être difficile. La houle par elle-même ne se lève pas énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une houle de plus de 2 mètres, 2 mètres 50. C'est surtout le vent et les secteurs du vent en fait, qui nous empêchent parfois de pouvoir faire des dépôts sur les îles. Parce que là, on est sur un quai, donc on peut se maintenir, on peut venir appuyer sur des défenses, des protections. Alors que les dépôts sur les îles, c'est directement à même la roche, quoi. On a fait des OP où on se retrouve avec 30 nœuds de vent. En fait, bon, moi, je pilote, mais c'est surtout les deux dockers qui sont à l'avant. Il faut faire très attention à eux parce que... un mouvement de roulis, ils sont quand même au-dessus des containers, ils peuvent glisser ou se faire coincer une main ou quelque chose comme ça avec les containers.
Merci, bonne journée.
Merci aussi.
Est-ce que j'enlève mes chaussures
Ici, oui, c'est mieux.
Ok, j'enlève.
Il y a peut-être encore une paire de pantoufles, si vous voulez.
Je m'appelle Yann Nior et je suis chef technicien Météo France.
Donc c'est là que vous travaillez, vous avez vos écrans d'ordinateur.
Exactement.
Et donc, vous avez quand même des éléments sur ce qui se passe à Kerguelen en termes de changement climatique.
En gros, la courbe de tendance montre un réchauffement de quasiment 1 degré. Oui. On part d'une température moyenne en 1955 à 4,4 degrés et on termine en 2014 avec une température moyenne annuelle de 5,3 ou 5,4 degrés. Il y a eu vraiment un réchauffement important entre les années 60 et les années 80. Et ensuite, les températures se sont plutôt stabilisées. Mais après, c'est très dur de vraiment tirer une conclusion sur ce sujet-là, quoi.
On dit quand même que les îles australes sont quand même un peu des sentinelles, c'est un peu des repères concernant le changement climatique. Alors comment vous, de Météo France, vous le voyez s'inscrire autour de vous dans les précipitations? Comment ça se traduit aujourd'hui, ce changement climatique dans les îles australes?
Il suffit de regarder le relief, quoi. Vous regardez le mont Ross. Hein. Moi, je suis venu en 2002 ici en mission. Je suis revenu cette année. En 2002, les arêtes du mont Ross étaient tout le temps enneigées, quoi. Maintenant, vous venez ici l'été, le mont Ross, les arêtes sont noires. On ne constate plus d'épaisseur de neige sur ces arêtes, quoi. Donc, il y a vraiment une fonte. Après, vous discutez avec les scientifiques sur le glacier Cook. C'est pareil, il a énormément reculé. Il y a des lacs qui sont apparus. Il y a d'autres sites, par exemple. Il y a un site qui s'appelle Point Mourne, où il y a une forte population de pétrels géants et d'albatros. Et à côté, il y a un désert qui est apparu, le désert de Mourne. Et ce désert-là a tendance à augmenter. Après, moi, j'ai l'impression aussi que, en termes de quantité de précipitations, effectivement, on ne voit pas de réel signal. Kerguelen, en fait, c'est vraiment au milieu de l'océan austral. Et donc, tout est lissé et les perturbations, elles continueront de passer d'ouest en est. Elles continueront de concerner Kerguelen. Par contre, un réchauffement de 1 degré, on ne s'en rend pas compte. Pour les gens, c'est très peu palpable, quoi. Mais ça peut avoir une très grande influence sur les précipitations. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plus d'événements marquants, c'est-à-dire des précipitations journalières plus importantes. On va avoir des périodes sèches plus longues, mais par contre, après, on aura des journées pluvieuses plus importantes en termes de quantité. Donc ça, ça va être un sujet d'étude, évidemment.
Merci beaucoup. Un peu mystérieuse parce qu'on n'a pas pu l'explorer et on ne peut plus l'explorer comme on veut, donc on n'en a vu qu'une toute petite partie. On part dans un froid vif et on va naviguer 2 jours. On va remonter maintenant dans des eaux un peu plus chaudes, on va repasser le nord de la convergence avec l'océan Indien et on va retourner dans les zones subtropicales et on va aller jusqu'aux îles de Saint-Paul-Amsterdam. On va retrouver un peu de chaleur. Les grues se mettent en place pour la portière et la vedette pour la permettre d'accoster et d'apporter les chargements jusqu'à la base sur l'île d'Amsterdam. Voilà, nous sommes arrivés.
Bienvenue à Pointe-Bénédicte.
Bonjour Olivier, hein, c'est ça?
Voilà, exactement, oui. Donc c'est une station de mesure atmosphérique. Moi, je suis là pour le programme RAMSES, donc le réseau atmosphérique de composés à effet de serre. Donc on étudie principalement donc, les gaz à effet de serre. Donc on peut commencer donc, par la salle principale, celle de mesure du CO2.
On vous suit, Olivier.
C'est une salle un peu plus bruyante. Voilà, il y a des pompes qui tournent en fait en continu voilà, pour pomper l'air depuis le mât à l'extérieur qui fait 21 mètres de haut.
Allez, on va à l'extérieur. On vous suit, Olivier. Là, on retrouve cet air pur, hein, magnifique, c'est vrai. On le sent d'ailleurs, quand on marche, là, on sent qu'il y a quelque chose qui fait du bien dans l'air. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est des choses qu'on se répète, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous le sentez?
On sent, oui, effectivement, l'air est pas... Enfin, on est très loin de l'air qu'on peut avoir dans les centres-villes. Après, donc, dans ce qu'on a, on a l'habitude de dire, voilà, ici, c'est l'air le plus pur du monde, mais on va se rendre compte que, par contre, l'air le plus pur du monde sent l'otarie.
c'est l'odeur particulière, singulière d'Amsterdam, cette odeur d'otarie quand on arrive.
Ah oui, tout à fait, oui, c'est très reconnaissable.
Olivier Lido, donc, on est avec vous là, à la station Pointe-Bénédicte d'Amsterdam. Qu'est-ce qu'on constate alors ici à Pointe-Bénédicte?
Alors ici, pour ce qui concerne le CO2 en tout cas, on observe une augmentation vraiment flagrante, hein, il n'y a aucun doute possible là-dessus. Donc en 1980, quand les mesures ont commencé, donc on avait un certain niveau de CO2 qui n'a cessé d'augmenter en fait depuis d'année en année de 2 à 3 ppm par an. Donc actuellement, là, on est à 396 ppm dans l'atmosphère. Donc, on devrait passer la barrière symbolique des 400 ppm l'année prochaine.
Donc on ne peut plus dire que c'est l'air le plus pur du monde ou c'est tout relatif, en fait, maintenant?
Mais en fait, non, ce sera toujours l'air le plus pur du monde, mais...
Ce sera le moins pollué
du
monde.
Ce sera le moins pollué du monde. Effectivement, la formule est peut-être plus adéquate.
Alors, c'est une augmentation qui va de manière régulière ou vous sentez il y a des pointes, comment elle se fait cette augmentation du taux de CO2?
Alors, pour le CO2, c'est très régulier, c'est très linéaire. Dans l'hémisphère sud, on a beaucoup d'océans, en fait, beaucoup moins de forêts. Et du coup, l'augmentation est beaucoup plus linéaire. C'est triste de voir à quel point, en fait, même dans ces terres vraiment très reculées, des terres qu'on peut vraiment penser vierges de tout impact humain, on retrouve quand même des traces. Donc, on le voit dans l'atmosphère, mais aussi simplement en se baladant sur les plages, on va retrouver des déchets plastiques, ce genre de choses. Enfin, c'est triste de voir à quel point, en fait, l'activité humaine a un impact aussi loin.
Puis Hélène Lebert, elle aussi est volontaire de service civique dans le cadre d'un programme dédié aux otaries d'Amsterdam. Ces mammifères marins ont été quasiment exterminés au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle pour leur fourrure et pour leur graisse. Aujourd'hui, leur population se reconstitue. Hélène n'en est pas à sa première mission. Elle a travaillé aussi en Sibérie sur les loups, mais aussi en Guinée-Conakry sur les chimpanzés. Les animaux, c'est une passion. Là, il est curieux, il veut nous voir.
Ouais. C'est drôle, hein? Viens. C'est souvent qu'ils viennent, même quand parfois je pèse ou je mesure, c'est vrai qu'il y a souvent des curieux, en fait, qui viennent un peu observer ce qui se passe. Et la plupart sont quand même très sereins. Les cris qu'on entend, c'est une mère qui appelle son jeune. Et alors tout ce qu'on entend après, ce qui est drôle, c'est que c'est les jeunes qui répondent. Alors mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a qu'un jeune. Et par contre, effectivement, il y a toujours beaucoup plus de réponses, en fait. Et des fois, c'est un vrai concert, c'est vraiment drôle. Et ils ont tous des cris très différents. Au début, on a l'impression que tous ressemblent un peu, et en fait, non. Chaque mère a son propre cri, chaque poupe aussi. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à se reconnaître facilement.
Alors on va parler du programme Otari. Quel est l'objectif du suivi des Otari?
En fait, il y a plusieurs objectifs. Un des principaux, on va dire, c'est vraiment de se rendre compte en fait, de la manière dont la population évolue. Parce qu'il y a eu vraiment une extermination à un moment quasiment complète en fait des otaries. Ils pensaient que les otaries à fourrure avaient complètement disparu d'Amsterdam. En fait, elles devaient continuer à nicher sur des parties vraiment complètement inaccessibles de l'île par l'homme. Et donc, elles ont commencé à recoloniser tranquillement. Et là, on est arrivé vraiment à un pic, on va dire maximum, en fait, de capacité d'accueil, on va dire, de l'île. Et donc, on observe, en fait, depuis quelques années, plutôt un déclin de la population. Donc, c'est très intéressant. Là, c'est les 200 poupes qu'on a marquées. On va pouvoir continuer à les suivre pendant de nombreuses années, on espère.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette île, elle est fragilisée par tout ce qu'on entend sur le changement climatique? vous en parlez certainement avec les autres scientifiques qui sont sur base aussi.
Ici, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une des îles les plus isolées du monde. Et je m'attendais vraiment à justement pouvoir faire des constats un peu différents. Là, c'est pas forcément en termes de changement climatique, mais par exemple, rien que hier, j'ai encore trouvé une femelle qui était cerclée par un filet de pêche. Et ça arrive vraiment très régulièrement. On fait des ramassages de déchets. On trouve énormément de choses, des plastiques, des bouteilles, des bidons, des flacons, des tongs, des bouées aussi, de bateaux. Tout le monde un peu de la base est venu donner un coup de main et on a fait toute la zone en fait des otaries dans les rochers, essayer d'enlever les filets, des cordes. Et il y avait vraiment, vraiment de tout. Et c'est vrai que même aujourd'hui, avec un ramassage comme ça, il y a vraiment encore de quoi ramasser. Et ça fait mal au cœur de se savoir sur cette île ici et de sentir encore cette pression humaine, en fait, même jusque dans ces territoires lointains.
Ouais, personne n'est à l'abri, au fond.
Non, c'est ça. Ça paraît difficile si ici on trouve encore des impacts, d'imaginer qu'à des endroits, il n'y en a plus, en fait.
Terres australes, des sanctuaires à protéger, c'était un reportage de Nathalie Grinspan. À l'issue de ce reportage, Nathalie a interviewé à La Réunion le directeur de la réserve naturelle des Terres australes, Cédric Marteau. Après la conférence de l'ONU sur le climat, qui s'est achevée cette semaine à Paris, il nous explique en quoi ces Terres australes peuvent être des observatoires importants pour le suivi des changements climatiques.
Les TAF représentent 80% de l'hémisphère sud. Ils ont des territoires qui se dispersent du 13e parallèle sud, sont l'archipel des Glorieuses, jusqu'au pôle sud. Ce rôle de dispersion géographique permet d'avoir des observatoires, observatoires biodiversité, mais aussi observatoires changement climatique, sur 80% de la partie sud de notre planète. Ce qui est une chance évidemment inouïe, il faut évidemment que la France ait tout son rôle, un rôle majeur dans ce suivi des changements climatiques.
Et c'est la direction de la conservation du patrimoine des Terres australes qui serait pilote de cet observatoire ?
Alors effectivement, au sein des TAF, on est en partenariat, donc on est dans la construction d'un consortium avec l'ensemble des organismes de recherche, mais aussi avec différentes ONG qui sont en capacité aussi d'apporter une expertise. Ce sera appuyé par une démarche Union européenne, puisque la Commission européenne a accordé à travers un fonds européen de développement, le 11e, 4 millions d'euros pour la création de cet observatoire. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'accumuler des données avec les partenaires scientifiques internationaux, et là j'insiste, bien sûr les partenaires de la zone, avec de la coopération régionale avec nos voisins australiens au sud, nos voisins sud-africains, mais aussi, plus dans les eaux tropicales, avec nos voisins du Mozambique, les voisins malgaches, etc., et d'avoir vraiment un réel réseau au sein de l'océan Indien sur ces changements climatiques.
Un mot sur le tourisme, puisqu'on a vu lors de cette rotation qu'il y avait un groupe de touristes qui était fort bien accueilli et qui pouvait découvrir et se faire les ambassadeurs ensuite de cette biodiversité. Quelle est votre doctrine en la matière ? Est-ce qu'il faut ne pas en faire beaucoup, le moins possible, ou est-ce qu'il est important aujourd'hui que l'État, enfin les Terres australes, s'ouvrent au tourisme ?
Ben, je crois qu'il y a vraiment trois parties géographiques dans l'État. Il y a l'Antarctique, le subantarctique et les îles éparses, avec donc des gradients très différents. Concernant l'Antarctique, je pense qu'il n'y a pas sur notre territoire du Mont d'Urville, sur notre base, de volonté de développer le tourisme. Pour la partie subantarctique, nous offrons, et vous l'avez vu, à travers le Marron Dufresne, quelques places chaque année à un tourisme spécifique. Ce sont plutôt des gens très passionnés qui deviennent ambassadeurs des TAF au fur et à mesure de la rotation. L'idée, c'est effectivement de concilier la présence humaine et la préservation. Ça passe par l'activité scientifique, ça peut passer par du développement d'activités touristiques de façon raisonnée. Je crois que les îles australes n'ont pas la capacité d'absorber, de digérer un tourisme de masse. Kerguelen, c'est quand même la taille de la Corse. La zone ouverte aux touristes, aujourd'hui, représente 3% de la superficie totale de l'archipel. Donc vous voyez, on reste quand même dans quelque chose d'extrêmement limité. Dans les îles éparses, nous avons déjà un peu de passagers, plutôt des passagers, nous sommes dans des eaux tropicales, liés à la voile, notamment en famille, de petits groupes de 6-8 personnes qui passent sur les îles et qui sont autorisés à débarquer sur l'île pour une visite ou organiser une plongée. Donc on est aussi là dans quelque chose de très limité. Nous lançons une opération un peu plus large dans les îles Éparses, avec notamment la compagnie du Ponant, avec l'idée de commercialiser sur une journée par île, donc vous voyez, dans quelque chose de très limité, pour 150-180 personnes maximum sur la journée, et une fois seulement par an, une opération de connaissance de ces îles et de découverte de cette biodiversité.
Cédric Marteau, on a pu voir sur ces îles la difficulté de la gestion, de la mise en place qui est assez récente, de la gestion du tri des déchets, il y a la question de l'assainissement. Alors on pourrait dire comme ça, en regardant en vue de l'extérieur et sans prendre trop de gants, mais franchement, les terres australes, ils sont en retard de 30 ans sur la métropole. Alors qu'on pourrait en faire des territoires d'exception, d'innovation, de vie en site isolé. Comment est-ce que vous réfléchissez là-dessus? Et est-ce qu'il y a des projets d'en faire des territoires, on va dire, d'expérimentation sur les énergies, par exemple, sur le tri des déchets?
Je crois que c'est aujourd'hui notre grand défi. Notre défi, c'est de considérer que les îles australes peuvent être des laboratoires à ciel ouvert et qu'on peut tester, notamment en termes d'énergie renouvelable, en termes d'assainissement, de nouveaux process. Avec l'idée de faire venir des entreprises qui voudraient tester, notamment dans l'éolien, notamment dans les énergies renouvelables. Évidemment, c'est un gros risque pour l'entreprise parce qu'on est quand même dans des conditions climatiques très difficiles, sous des pressions quasi permanentes. Et donc, les entreprises pourraient gagner un label majeur s'ils réussissaient à développer quelque chose qui est approuvé au Kerguelen. Je reste persuadé que ces bases seront transformées dans un pas de temps très court, dans moins de 7 à 8 ans. On est dans le nouveau plan de gestion de la réserve naturelle. La réserve naturelle va fêter ses 10 ans. La chance que nous avons, c'est quand même l'Union européenne. Je pense qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, l'Union européenne, via les fonds européens de développement, typiquement, il y a un fait de thématique sur lequel il y a actuellement 16 millions d'euros qui est réservé aux pays et territoires d'outre-mer, qui englobe donc l'État, qui englobe aussi d'autres territoires ultramarins de l'État français, sur la thématique énergie renouvelable. Tout bon projet trouvera forcément financement. À nous de monter le projet et ensuite d'orienter les différents financements.
Merci à Cédric Marteau pour cet entretien réalisé par Nathalie Grinsp. Interception était réalisée ce matin par Pierre Jabot, assisté de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili. Mixage, Lucas Vaillant. La matinée se poursuit avec le journal de 10h sur France Inter. On se retrouve la semaine prochaine.